Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Dans le Rhône, 10 morts, dont 5 enfants, dans un violent incendie à Vaux-en-Velin. Deuxième jour de la visite au Maroc de la ministre française des Affaires étrangères. Parmi les sujets évoqués par Catherine Colonna et Nasser Bourita, le dossier des visas et la position de la France sur le Sahara occidental. Les groupes de l'ultra-droite constituent un danger pour la France, alerte SOS Racisme, alors que des dizaines de militants identitaires ont été arrêtés avec des armes après la finale France-Maroc. Entretien avec le président de l'association, Dominique Sopo. Enfin, Nanterre, ville liée à l'histoire de l'immigration algérienne, accueille demain soir la pièce Hakima 5 juillet 1962. Nous écouterons le dramaturge et comédien Mohamed Kaki. Ce drame, d'abord dans la région lyonnaise, au moins 10 personnes sont mortes, dont 5 enfants de 3 à 15 ans, dans un incendie la nuit dernière à Vaux-en-Velin. 4 personnes blessées ont été placées en urgence absolue. Environ 165 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages. Un bilan extrêmement grave a déploré tout à l'heure le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place. Catherine Colonna poursuit sa visite de 2 jours à Rabat. La ministre française des Affaires étrangères a rencontré son homologue Nasser Bourita pour évoquer toutes les dimensions du partenariat bilatéral qualifié d'exceptionnel par le Quai d'Orsay. À l'ordre du jour, les relations économiques, mais aussi la guerre en Ukraine et la question de l'insécurité alimentaire. Parmi les sujets sensibles entre Paris et Rabat, le dossier des visas, mais aussi la position de la France sur le Sahara occidental. Un groupe de 47 personnes proches de l'ultra-droite arrêté mercredi soir à Paris. Ces personnes s'apprêtaient à rejoindre les Champs-Élysées à l'issue de la demi-finale France-Maroc. Elles ont été interpellées notamment pour port d'armes prohibées. Dans d'autres villes comme Nice, Lyon ou Nantes, la soirée de mercredi a été marquée aussi par la mobilisation de militants identitaires. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, revient sur la présence et le danger représenté par ces groupuscules aujourd'hui en France.
Ces groupes, en termes de nombre de personnes, sont relativement stables. On estime qu'il y a entre 2000 et 3000 activistes d'extrême droite radicale, qu'on qualifie parfois d'ultra-droite. Donc il n'y aurait pas d'augmentation exponentielle de leur nombre, a priori, même si c'est toujours assez dur de savoir, puisqu'on est sur des groupes qui sont relativement informels. Mais par contre, ce que l'on constate, c'est une montée, une multiplication des violences perpétrées par ces groupes ces derniers mois. D'ailleurs, vous parliez de ces personnes qui ont été interpellées à Paris, qui avaient des matraques, qui avaient des battes de baseball, qui avaient des poings américains et qui allaient se rendre sur les Champs-Élysées pour agresser des supporters marocains ou supposés tels. Et parmi ces personnes, on a d'ailleurs l'un des agresseurs des militants de SOS Racisme qui s'était rendu pacifiquement en meeting d'Éric Zemmour à Villepinte l'an dernier pour dire non au racisme et dont on se souvient qu'ils avaient été frappés, un des agresseurs, encore une fois, fait partie de ces personnes interpellées hier par la police. Alors évidemment, le danger que représentent ces groupes, même s'ils sont relativement peu nombreux et pas en augmentation sensible a priori à ce que l'on sait, c'est un danger, premièrement, d'agression physique, contre des personnes, d'agression contre les biens. Par exemple, le local de SOS Racisme dans la ville de Bordeaux a été tagué sans doute par ces groupuscules. Les agressions physiques à répétition font peser un danger de séquelles, voire de mort, sur les personnes qui seraient agressées, parce que les agressions, on le sait, peuvent mener au pire avec ces groupes. Et on est aussi dans des groupes qui entretiennent un imaginaire de l'action directe, de l'activisme, du coup de force, qui est à relier quand même avec une ambiance relativement putschiste que l'on voit se déployer à l'extrême droite européenne ces derniers mois, ces dernières années, et qui a entraîné en Allemagne d'ailleurs un vaste coup de filet contre un groupe qui avait prévu de mener un coup d'État contre les institutions régulières de la République allemande.
Vous nous dites que le nombre de ce type de personnes n'augmente pas, mais que ces personnes sont davantage actives aujourd'hui ?
Oui, le nombre est relativement stable à ce que l'on sait, à ce qu'en disent les spécialistes. Par contre, il y a un activisme extrêmement virulent de ces groupes ces derniers mois. On voit qu'il y a une montée de la violence, des violences perpétrées par ces groupes, et là il faut évidemment s'en inquiéter, parce qu'on sait bien que lorsque les violences augmentent, eh bien cela peut mener au pire, ça peut mener à la mort, et à minima à des blessures de la part de personnes qui seraient prises pour cible par ces groupes, et ça peut mener aussi à des coups de force qui peuvent aller extrêmement loin, peut-être pas de la part de ces groupuscules directement, mais en tout cas ça entretient l'imaginaire putschiste qui peut pousser à l'action, à des actions désespérées, des personnes qui sont dans un rêve de coup d'État, comme on l'a vu récemment en Allemagne, où un grand coup de filet a été fait dans ces réseaux d'extrême droite putschistes, hein, qui préparaient un coup d'État, en tout cas au moins dans leur esprit, contre les institutions fédérales allemandes.
Certains de ces groupuscules ont été dissous. Est-ce la solution ?
La dissolution est une des solutions possibles face à ces groupuscules, dans la mesure où le simple fait que ces gens soient gênés dans le fait de se coordonner, eh bien, peut ralentir des projets, des passages à l'acte, parce que tout cela demande toujours des formes de coordination. Ceci étant, évidemment, il ne faut pas être naïf, la dissolution de ces ligues factieuses n'entraîne pas mécaniquement une disparition des gens qui en sont des membres, ou en tout cas ça n'entraîne pas une modification de leur état d'esprit. Et on sait bien que les ligues dissoutes ont tendance à se reconstituer relativement rapidement, d'où aussi l'importance d'une action policière extrêmement suivie par rapport à ces groupes, mais aussi au-delà de cette action policière, eh bien d'une action militante, d'une action de terrain, d'une action de conviction pour faire en sorte que finalement ces groupes ne reçoivent pas de la sympathie de la part de tout un environnement qui aujourd'hui leur est relativement favorable.
SOS Racisme, vous avez tenu à saluer le parcours de l'équipe du Maroc, un parcours sans précédent, soulignez-vous, pour une équipe africaine qui a suscité ces derniers jours des réactions enthousiastes, spontanées, en France et dans le monde entier.
Oui, parce que, évidemment, au-delà des activistes d'extrême droite qui ont fait des ratonnades et qui essayent de créer une ambiance de chaos dans le pays, une ambiance de guerre civile, de confrontation, ce que l'on voit, c'est que tout cela s'est très bien passé en France, contrairement à ce que prévoyaient toutes ces crapules d'extrême droite. Il y a eu beaucoup de fraternité, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas eu de confrontation entre les supporters de l'équipe de France et les supporters de l'équipe du Maroc, peut-être d'ailleurs aux grandes dames des réseaux d'extrême droite. Et au-delà, bien évidemment, nous saluons le parcours de l'équipe du Maroc, parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale. Hein. En 1990, c'était le Cameroun de Georges Mia qui, pour la première fois, permettait à une équipe africaine d'arriver dans un quart de finale. Et bien là, c'est le Maroc. Et ça montre aussi, sans doute, en tout cas, c'est symbolique aussi, hein, des évolutions que l'on peut voir dans le monde, hein. Les évolutions géopolitiques, elles se traduisent aussi dans le sport. Et je trouve que c'est une belle chose de voir qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, à travers le monde, eh bien, les différents pays, où qu'ils soient, puissent avoir accès au premier rang, aux premières loges. Ben, c'est ça aussi, quand on milite pour l'égalité, c'est faire en sorte que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des potentialités que peuvent offrir des sociétés. Et je pense que le Maroc est aujourd'hui un peu symbolique de cela.
le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, au micro de François-Xavier de Calonne. En Jordanie, un officier de police tué par balle ce matin lors de manifestations dans la province de Man, une région où des manifestants dénoncent depuis plusieurs jours la hausse des prix des carburants. La France condamne l'attaque contre la FINUL qui a fait un mort chez les casques bleus, un militaire irlandais. Trois autres soldats ont été blessés. Paris appelle au calme et à ce qu'une enquête soit menée sans délai ni entrave afin que les auteurs de cette attaque puissent être traduits en justice. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté recommande de suspendre les incarcérations à la prison de Bois d'Arcy, une prison surpeuplée, souligne Dominique Simoneau. 12 800 policiers et gendarmes seront présents demain dans toute la France à l'occasion de la petite finale du mondial, un match qui se déroulera au Qatar entre le Maroc et la Croatie. 14 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dimanche en France pour la finale entre la France et l'Argentine. Enfin, c'est demain soir à Nanterre, la dernière représentation de l'année de Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, de et avec Mohamed Kaki. Une soirée dédiée à Jean-Luc Enaudi, l'historien qui a fait connaître à la France le massacre du 17 octobre 1961. On écoute Mohamed Kaki, une pièce qu'il a jouée dans plusieurs villes de France.
Oui, c'est un contexte très important pour nous, c'est un enjeu. Après avoir fait une tournée splendide avec un public chaleureux en province et puis dans la région parisienne, à chaque fois, ça se termine par la fête, par la joie. Et là, Nanterre, c'est un enjeu important puisque c'est ici qu'a été créée l'association Les Oranges. C'est ici qu'a été créé aussi le PPA, le Parti du Peuple Algérien, en 1937 précisément. C'est ici que nous avons œuvré pour avoir le boulevard du 17 octobre 1961. C'est à Nanterre encore que nous avons lutté pendant plus de 30 ans pour obtenir un groupe scolaire et une rue Abdelmalek Sayad du nom d'un grand sociologue. Et donc c'est ici que nous avons mis une énergie énorme et je dirais qui est devenue aussi exemplaire, puisque à partir de Nanterre, comme le disait Abdelmalek Sayad, l'immigration algérienne est exemplaire de son parcours de travailleur. Et donc, puisque dans d'autres villes a été, un certain nombre de choses ont été faites à partir de ce que nous avons initié. Et le travail de mémoire, mais une mémoire de combat, et que aujourd'hui nous arrivons à autre chose, c'est-à-dire à se dire qu'il faut travailler avec d'autres moyens. Depuis, on resserre un peu l'entonnoir sur le théâtre, l'écriture, Et donc, c'est un enjeu important puisque c'est ici aussi que à Nanterre que le plus grand cortège de l'Île-de-France était parti à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. C'est ici aussi, à Nanterre, qu'il y a eu le plus grand bidonville de France. Donc c'est une ville chargée d'histoire, de mémoire, auquel l'association Les Oranges a contribué à faire rayonner, de manière plus importante. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu pour nous, et c'est un enjeu aussi pour ne pas oublier les amis, et notamment un de nos amis le plus important, c'est Jean-Luc Enaudi qui a écrit le livre important, qui est devenu un classique aujourd'hui, qui est « La bataille de Paris ». Et vraiment, c'est un homme pour nous très très important, il nous a quittés en 2014, et c'est lui qui a fait connaître le 17 octobre 1961 au grand public grâce au procès notamment à Bordeaux à l'époque avec Maurice Papon. Et donc voilà, c'est en quelque sorte, c'est aussi un hommage qu'on rend à Jean-Luc Enaudi, notre ami. C'est évidemment l'hommage que nous rendons à tous les travailleurs algériens. qui ont perdu la vie, évidemment le 17 octobre 1961 par la police, mais aussi dans les entreprises à Nanterre et ailleurs, Citroën, Renault, et puis plein d'autres entreprises moins importantes, mais qui sont morts de morts d'accidents du travail et dont on n'oublie jamais ces aspects-là, parce que ce sont des morts silencieuses. Voilà. Donc cette pièce de théâtre, évidemment, elle rencontre, c'est une fresque, elle rencontre du 17 octobre 61, évidemment, de l'indépendance de l'Algérie, mais aussi de l'après 62, ici, pour l'immigration algérienne, c'est-à-dire nous, les enfants, de cette immigration, ce que nous avons subi à partir de 62 dans les écoles, etc. Parce que ça n'a pas été tout rose, voyez-vous. Moi, je ne suis pas ni dans le misérabilisme, ni dans l'angélisme. C'est-à-dire que certains, par exemple, disent que les bidonvilles, c'était le paradis. Non, c'était pas le paradis. Les bidonvilles, c'était terrible.
Mohamed Kaki, lors de cette tournée, beaucoup de jeunes ont pu assister à votre pièce de théâtre. Vous espérez aussi qu'ils seront nombreux à Nanterre ?
Oui, je vous remercie pour cette question. C'est la question centrale. La jeunesse, évidemment, c'est ce que nous visons. Nous avons eu beaucoup de jeunes dans les spectacles, dans les représentations que nous avons faites à Paris et en province. Nous avons fait des représentations spécifiques pour les lycéens avec les lycées et leurs profs qui sont venus pour des séances spécifiques en après-midi, par exemple. Nous l'avons fait à Stein, ville que je remercie puisque c'est là-bas que nous avons fait notre création et vraiment ça a été formidable. Évidemment, c'était des moments importants avec la jeunesse parce qu'à chaque fois, c'était même très drôle puisqu'ils nous disaient toujours pendant l'échange après, c'est « Mais monsieur, est-ce que c'est une histoire vraie ? Et comment vous avez écrit cette pièce ?» etc. Donc des questions extrêmement importantes, fondamentales. Alors évidemment, à Nanterre, cette dernière est ouverte à tous, à la jeunesse évidemment, mais nous projetons de travailler avec les lycées de Nanterre pour faire des représentations spécifiques en 2023. Mais là, évidemment, oui, il y a une grande mobilisation à Nanterre pour venir dans cette pièce. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est les familles elles-mêmes qui font le bouche à oreille, etc. Donc oui, la jeunesse est quelque chose de fondamental, d'important.
Mohamed Kaki, sa pièce Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, est jouée demain à 20h au Théâtre des Fêtes à Nanterre. À l'occasion de la fête nationale de Bahreïn ce 16 décembre, Radio Orient reçoit à 16h l'ambassadeur de Bahreïn en France, entretien réalisé en arabe par Mazen Hamoud dans le cadre de l'émission Likat. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est David Alphan, conseiller de Paris, vice-président délégué du groupe Changer Paris avec Rachida Dati. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.